C'est l'or, il est l'or, l'or de ce pays.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, bicyclette, bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Bonjour et bienvenue à tous sur votre émission Il est l'heure Monseigneur sur 101.5 FM Radio G. Cette semaine, une rediffusion du 27 novembre 2023 qui traitait du thé Alzheimer. Effectivement, nous n'avons pas été en condition d'enregistrer l'émission. Donc on se retrouve dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Tariq.
Bonjour Raphaël.
Bon, alors Michel et Tariq, ce sont nos deux invités du jour. On va pouvoir discuter avec eux comme on veut. Bonjour Josiane.
Oui, on a l'impression de manger une glace.
Bonjour Marc.
Bonjour.
Et salut Ricardo.
Salut Raphaël.
Alors Marc, on commence tout de suite avec toi, la petite phrase du jour, s'il te plaît. Dis-nous ce que tu veux nous dire.
Bah, c'est une pensée sérieuse, mais dit d'une manière humoristique. Celui qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser.
Moi, je l'aime bien. Tu veux dire qu'on apprend de ses erreurs?
Oui, et puis je pense que dans une association ou dans le monde du travail ou dans la vie en général, je crois que avoir le droit à l'erreur c'est extrêmement important parce que on est toujours sur le regard, on agit sous le regard des autres et souvent la peur justement de faire une erreur paralyse et empêche la créativité et c'est quand même important.
Oui, mais à condition de vraiment savoir apprendre de ses erreurs parce que enfin on dit souvent on ne regarde pas le lieu où on est tombé, c'est le lieu où on a trébuché. Mais il faut bien faire le pas de regarder où on a trébuché et d'apprendre réellement de ses erreurs.
Tout à fait.
Bon, aujourd'hui, on n'a pas fait d'erreur, mais on apprend encore hein, une nouvelle méthode de faire de la radio. Je vous propose tout de suite de faire une petite pause musicale pour découvrir le couple mystère. Alors, le couple mystère, c'est pas un couple dans la vie. Et on va écouter tout de suite une chanson de 1981, une chanson de Daniel Balavoine et Michel Berger. Ça s'appelle « Bateau toujours ».
Bateau espoir,
c'était Daniel Balavoine et Michel Berger avec la chanson Bateau toujours, une chanson de 1981. Alors une année qui évoque plein de choses et forcément des personnages historiques pour nous. Ça évoque déjà des pistes 1981 ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Quand même.
Non mais par contre, si tu parles pas dans le micro, ça va pas marcher, Jean-Jacques.
Ah, c'est les mêmes micros parce qu'il est jaune.
Ouais, non, mais en 81 d'abord, c'est les socialistes qui arrivent. Enfin que non, la manière dont je le dis.
Bon, ça m'énerve.
L'élection de François Mitterrand.
Il est déjà sur la bonne voie, donc voilà, il a pas trouvé le couple encore, mais il est sur la bonne voie. Michel et Tariq, aujourd'hui, on vous reçoit pour nous parler d'une initiative à l'association France Alzheimer 49 qu'on a appelé le T-Alzheimer. Qu'est-ce que vous souhaitez nous en dire? Comment faut-il le présenter?
Bah, c'est une initiative qui remonte quand même déjà il y a 3 ans. Moi, j'ai eu la chance de connaître Tariq depuis très longtemps, puisqu'il était à l'école avec mes enfants.
Ça nous rajeunit pas, ça, Tariq.
Et je savais qu'il avait des compétences artistiques, parce que, bon, d'abord, j'avais été voir, je sais plus en quelle année, la comédie musicale qu'il avait créée avec un certain nombre de ses confrères au Grand Théâtre à Angers, n'est-ce pas? Je raconte pas de bêtises, hein. Et ça m'avait frappé, cette affaire. Je me suis dit, bon. Et puis bon, on habite tous les deux sur la Roseraie. Enfin, on habitait sur la Roseraie, mais sur la Roseraie, donc on se connaît et tout. Et un jour, je m'étais dit, si on travaille au niveau de France Alzheimer 49 autour d'un atelier, tout ce qui tourne autour de l'art. Que ce soit, bon, j'avais pensé peinture, j'avais pensé la musique, j'avais pensé la danse et tout. J'ai dit, il faut que j'en cause, au moins avec Tariq, parce que je sais que Tariq, il est une cheville ouvrière avec tous ces gens-là, quoi. Et puis, on s'est mis d'accord là-dessus, et on a commencé tranquillement, dans le café que tu gérais à l'époque, qui se trouvait juste à côté de l'association. On a commencé comme ça, je regardais au mois de février 2019.
Donc l'idée, c'était de redonner un petit peu d'expression aux personnes malades, si je dois résumer.
L'idée, c'était d'inclure des personnes malades dans un lieu de sociabilisation qui était un café.
Bon.
Tout public.
Voilà, et alors ça, c'est un peu le travail quotidien de l'association France Alzheimer 49, de resocialiser autant que possible les familles. Là, la dimension supplémentaire, c'était la dimension artistique. Tariq, toi, tu fais du piano, hein, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Et comment t'as appréhendé ce public?
Alors, avant d'appréhender le public, j'ai dû appréhender Michel. On a il y a une très grande proximité avec Michel. C'est vrai que je vais pas dire qu'on s'est perdu de vue, mais on a toujours été un petit peu voilà sensible dans les actions qu'on pouvait mettre en place sur le quartier de la Roseraie, que ce soit culturel, etc. Donc forcément, quand Michel me parle du projet qu'il a avec France Alzheimer, l'idée, enfin, pour moi, c'est une évidence. Donc, en fait, ça démarre très vite, Michel. Et que c'est vrai que de fil en aiguille, bon, moi, je suis un petit peu dans l'artistique, c'est vrai, au niveau culturel depuis des années. Donc, c'est quelque chose qui me parle. Et quand Michel, il me parle de ce projet et puis du public que ça peut toucher, moi, je valide tout de suite. Par ailleurs, on le valide ensemble avec Wadi à l'époque, qui lui aussi est un intervenant un petit peu au niveau culturel. Donc, tout de suite, ça démarre. Donc, c'est vrai qu'il y a le piano. Le piano, moi, c'est l'instrument que j'utilise.
Pour entrer en relation un peu.
Pour entrer, voilà. Donc, ça fait très musicothérapie au départ. Mais très vite, en fait, le projet a pris une autre dimension, puisqu'on a vu un petit peu l'engagement des aidants, des aidés, et de tout le bien-être que ça pouvait leur apporter. Et tout de suite, voilà, moi, je me suis pris au jeu. Et puis, quelque part, maintenant, je suis là et puis je me vois pas ailleurs, en fait.
Bon.
C'est pour ça que Michel, quand il m'appelle, je suis présent.
On va donner envie tout de suite aux auditeurs. Comment ça se passe, une séance, concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, on comprend qu'il y a du piano, on comprend qu'il y a une dimension artistique, mais le projet, on en a parlé sans que ce soit vraiment concret.
Mais c'est ça l'idée. Moi, en tant qu'intervenant artistique, il n'y a pas de séance type. C'est-à-dire que on arrive, bien sûr, il y a toujours une trame avec le public, mais on ne sait pas où est-ce que ça part à chaque fois, parce que chaque séance est vraiment différente les unes des autres, hein, vraiment, parce que chaque participant vient avec sa sensibilité, avec son émotion, avec ce qu'il peut vivre au quotidien. Et c'est vrai que d'une séance à l'autre, ça change. Et qu'on doit constamment, avec Michel, parce qu'il prend part aussi aux ateliers, on doit constamment un petit peu se réadapter. Et qu'aujourd'hui, une séance type, c'est déjà la base pour moi, c'est que le public se fasse plaisir. Déjà, musicalement, que ça soit au niveau, Jacqueline elle me regarde, donc j'espère que je dis pas faux, mais c'est ça, et c'est vrai que quelquefois on a des situations qui sont des fois un peu complexes, qui fait que les séances doivent se réadapter, mais là on a un fil conducteur, et le fil conducteur, on en parlera, c'est justement ce projet d'une pièce musicale. Une pièce de théâtre musical, donc c'est un petit peu le fil conducteur, voilà. Alors dedans on y retrouvera plein d'ingrédients dont la danse, mais c'est un petit peu le fil conducteur. Donc l'idée c'est que voilà, il y a une participation collective individuelle et que la musicothérapie, donc cet outil de piano que moi je prends comme support, nous aide voilà à mettre en place les séances globalement.
Le fait est que tu disais il faut s'adapter, et c'est vrai que c'est important de rappeler que les personnes malades sont pas toujours là où on les attend, et que c'est finalement un devoir que l'on a en tant que bénévole, aidant ou autre, de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, mais comme on le ferait avec n'importe qui finalement.
Alors on a quelquefois un couple qui dit je viens pas parce que mon compagnon il veut pas sortir de la maison.
Ça arrive, oui. Et en termes d'adaptation, j'entends qu'il faut faire en fonction des états d'âme des uns et des autres, mais comment vous êtes surpris des fois par les personnes malades ?
Non, on n'est pas surpris, on est une équipe de bénévoles, la Josiane.
Agréablement, lui, j'entends.
Josiane, Louis et moi, on sait ce que c'est, puisqu'on a vécu, nous, la maladie d'Alzheimer, avec Louis avec son épouse et nous avec nos mamans. Donc on sait quoi. Non, ce qui est important, c'est d'abord de les accueillir, malgré la difficulté, et de comprendre ce qui s'est passé depuis la dernière séance. Et à partir de là, d'avoir un peu d'empathie, un peu d'empathie, et d'écoute, et les choses redémarrent. Voilà. La vocation première de cet atelier, et on le fait sans psychologue, on le fait entre nous, c'est de faire en sorte que ces personnes qui ont des troubles cognitifs sévères, eh bien, on travaille sur les capacités restantes cognitives. On a deux personnes malades qui sont en orthophonie, qui ne parlent pas dans les séances d'orthophonie, pratiquement pas. Et que nous, au niveau du collectif, personnes malades, les aidants et nous, on arrive à faire parler, avec naturellement nos professionnels artistiques. Voilà. Ça, c'est quelque chose, moi j'y croyais beaucoup. J'y croyais beaucoup, et aujourd'hui, c'est une réussite. Et c'est impressionnant, parce que si vous saviez les aidants de ces personnes malades, qui ne comprennent pas au départ, mais comment ils arrivent quand même à reparler.
Parce que vous leur donnez l'espace de parole, peut-être.
Je trouve que aussi, ça réunit beaucoup d'ingrédients. La musique qui a une forte connotation pour tout le monde, c'est quelque chose c'est très évocateur à chaque moment de notre vie. On joue une musique aujourd'hui, ça nous rappelle différents moments de notre vie justement. Donc déjà, on touche quelque chose qui est de l'ordre du limite du réflexe en fait, avec cette forte connotation. Et aussi le cadre. Je trouve que le cadre, justement, dénué de tout de soins, on va dire, neutre, qui rappelle un cadre, enfin on va dire un café, ou qui rappelle un cadre très social, et la convivialité ressort un petit peu, on va dire, des schèmes quasiment réflexes, quoi. Enfin, pour résumer ça comme ça, je trouve.
Oui, donc, moi je dois dire que le thé Alzheimer, on est une équipe aidée, qui ont trouvé vraiment une connotation amicale, où rien que de se voir, on a déjà un moral qui remonte. Il y a une osmose qui s'est passée entre chaque intervenant. Tariq nous met très à l'aise en particulier. Et c'est vrai que chaque séance est différente. Mais si on arrive avec un moral un peu en berne, parce que le malade... n'était pas en forme dans les jours précédents, automatiquement, un coup d'œil, un regard, on se sent épaulé et compris surtout. Et je trouve que c'est ça la force du thé Alzheimer, c'est que les malades et les aidants se sentent compris.
Alors, pour dire les choses autrement, on remet les compteurs à zéro. Et j'ai cru comprendre que c'était aussi une remise des compteurs à zéro pour la personne malade qui repart dans de meilleures conditions qu'elle est arrivée parfois.
Moi, je peux dire que j'ai vu, et je parle sous la responsabilité de tous ceux qui m'accompagnent ici, là. J'ai vu des malades arriver en Alzheimer, la tête basse, sans sourire, prostrés, et repartir au bout de 2h30 d'atelier d'Alzheimer avec une banane, mais inimaginable. Banane au niveau de la personne malade, mais banane au niveau de l'aidant qui repart chez soi.
Alors, question, qu'est-ce que vous mettez dans le thé alors?
Que des substances autorisées.
Que des substances autorisées, exactement. Non, mais tout a été dit. Enfin, voilà, ils ont bien résumé. C'est que, voilà, il y a de la bienveillance entre tout le monde. Et c'est ça aussi l'idée. C'est qu'il y ait de la bienveillance, c'est qu'il y ait des moments, voilà, de musique où les gens, voilà, peuvent s'exprimer. En réalité, c'est. On pourrait l'appeler de différents noms, hein. On dit thé Alzheimer, mais ça pourrait être des moments géniaux Alzheimer, des moments un peu plus sensibles, enfin bref.
Le thé, c'est qu'un prétexte.
C'est un prétexte, ça a été un support au départ, oui. Ça a été un support pour justement, et on voit que la mayonnaise a bien pris parce que les personnes sont là. Au début, c'est vrai que d'avoir un socle, le socle était un peu petit au niveau des personnes qui venaient, et qu'aujourd'hui, voilà, on sent que le socle est solide. Et moi, en tant qu'intervenant, c'est ce qui me plaît, c'est de savoir que les personnes sont là et sont prêtes à s'investir, à s'engager.
Alors, combien de participants en moyenne ou...
Donc, oui, on est une quinzaine de, il y a une quinzaine de bénéficiaires. Et puis voilà. Donc, l'idée aussi de quand on met en place ce type de séance ou même là, ce qu'on fait ici en radio, c'est aussi une manière de promotionner. Quelque part un petit peu ce qu'on met en place, et c'est aussi d'inviter des personnes qui seraient malades, un peu isolées, etc., de la maladie d'Alzheimer, ou des aidants qui sont un peu perdus. C'est aussi ça, le thé Alzheimer, c'est aussi un moment de rencontre, et nous on invite justement les auditeurs, les personnes qui seraient peut-être sensibles, peut-être à ce type de message, ou même sans, voilà, ou en difficulté ou autre, de prendre contact aussi avec France Alzheimer 49. Moi, Michel, il serait pas venu me voir au départ pour le thé Alzheimer. Moi, j'étais au courant de rien. Pourtant, j'habite le quartier depuis des années. Et je savais pas que Michel était même le président de France Alzheimer. Donc, comme quoi, on n'a jamais assez de communiquer. Sur déjà votre dynamique de France Alzheimer, sur la maladie, etc. Et que ce qu'on met en place, ça a surtout cette vocation d'alerter, puis d'initier et de voilà, que les gens puissent venir.
Bon, on parle de la suite du thé Alzheimer tout de suite après la petite pause musicale. On va écouter une chanson de Florent Pagny de 1989. 1989, c'est l'année où le couple s'est rencontré. Allez, on écoute tout de suite Florent Pagny. À tout de suite.
Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux. Que malgré moi, comme d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Seul, je bois mon café, je suis en retard. Comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Là, je les cacherai comme d'habitude, mais comme d'habitude, même la nuit, je vais.
C'était Florent Pagny avec, comme d'habitude, une chanson reprise en 1989, donc l'année où le couple s'est rencontré. Alors, François Mitterrand, il a rencontré une personne qui est devenue docteur hein, depuis, assez contestée dans son genre, je vous en dis pas plus, on en reparlera tout à l'heure. Ah, ça y est, il va m'agacer encore Jean-Jacques. Bon, on reparle un petit peu du thé Alzheimer. Le thé Alzheimer, aujourd'hui, c'est un projet qui avait, on va dire, l'ambition de on va dire, d'émanciper les personnes malades et les aidants. Aujourd'hui, le projet va au-delà de vos espérances de départ. Il y a des projets de représentation.
Oui, Raphaël, c'est vrai que bon, au fur et à mesure qu'on se réunissait au niveau de cette animation là, il y avait de l'animation musicale, mais il y avait aussi une animation de jeu, hein, avec Wadi, des choses comme ça. C'était des temps conviviaux très importants. Puis moi, je me suis dit, mais bon sang, je voyais quand même les personnes malades, parce que je les connais bien, être d'une façon totalement différente dans notre atelier que dans la vie normale. Avec leur aidant. Et je me suis dit, là, il faut qu'on creuse ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on en a causé tous les deux. Et on disait, on pourrait pas faire quelque chose de musical, de théâtre. Bon, je savais pas trop, hein, mais voilà, quoi. Et puis, en réfléchissant, on a parlé du café. Faire quelque chose dans un café, puisqu'on était dans un café. Dans un café, quoi. Et puis, bon, on va essayer de travailler un scénario. Alors au départ, on a fait travailler les personnes malades. On leur a demandé d'écrire. On leur a demandé d'écrire ce qu'ils souhaitaient. Et ça marchait, hein. Alors bon, il y en avait deux lignes, hein, mais on les a reprises. On a demandé à leurs aidants d'écrire leurs souhaits. Voilà. Et puis on a compilé un peu tout ça, puis après...
ça devient le café des jours heureux, quoi.
En discutant avec Tariq, on s'est dit, bon, faut qu'on aille plus loin que ça. On va faire une sorte de comédie ou théâtre musical. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui, quoi. Et on l'a appelé au café des souvenirs. Parce que cette pièce théâtrale, musicale, elle se passe dans un café. Dans un bistrot, ça on y tient, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les bistrots. Et on a toujours en tête le fait que les personnes Alzheimer qui ne vont plus, si vous voulez, de par la maladie, hein, avec leurs aidants dans les cafés, hein, ils sont complètement coupés de la société, ils ne vont plus au restaurant, ils ne vont plus au cinéma. On a dit, on maintient ce projet. Et tout est centré là-dessus. Il y a toute une histoire qu'on a, bon... rédigé à partir du vécu, de ce qu'on vit, nous, hein, les aidants, avec les personnes malades, et se recentrer dans ce café des souvenirs.
D'accord. Le but de ce genre de projet, pour moi, c'est surtout de re-socialiser, en fait, recréer du lien social que le couple aidant-aidé perd au fil de la maladie, parce que on retrouve beaucoup de gens isolés complètement, parce que finalement, les proches, au départ, sont présents, on va dire la grande famille, on va dire présent, et progressivement, commencent à retourner dans les routines, à s'éloigner, et ils se retrouvent seuls. Et ces gens d'initiative, je trouve ça génial, quoi, parce que c'est dans ce sens-là, c'est le prétexte, c'est justement de recréer du lien social.
Vous savez, dans notre groupe, on a un couple de médecins. on pourrait dire, les médecins, c'est des gens qui sont sociables et tout. Et moi, je les connais bien parce que je peux vous dire que lorsque ils ont frappé à la porte de France Alzheimer 49, ça n'a pas été simple, cette affaire. Et aujourd'hui, quand on les voit, ils étaient totalement isolés. Hein, totalement isolés. Lui, médecin pédiatre, elle, médecin en cancéro. Hein. Mais ils ne voyaient plus personne de par la maladie et tout. Et aujourd'hui, quand on les voit venir chez nous et tout, mais la banane qu'ils ont, mais tous les deux, moi, ils m'embrassent, c'est pour vous dire un petit peu, on a rompu la solitude avec eux, et puis ils sont vraiment contents de participer avec d'autres, parce que moi, elle m'a dit, Marie-Cécile, mais c'est vrai que je suis pas toute seule dans la maladie, il y en a d'autres, hein. Et donc, ils vivent une expérience aussi différente.
On va rappeler qu'il y a 1 200 000 personnes.
C'est vraiment intéressant.
On va rappeler qu'il y a 1 200 000 personnes malades en France, hein, quand même, c'est pas rien. Et combien en Maine-et-Loire? Ben, 12 000 à peu près, dont la moitié est diagnostiquée seulement. Et donc, effectivement, il y a besoin de ne pas rester tout seul. Et en allant vers les acteurs de proximité et les réseaux spécialisés, c'est quand même facile de sortir. Enfin, non, pardon, c'est pas facile, mais on peut sortir de la solitude. Et puis, j'entends que vous êtes un peu leur bulle d'oxygène, quoi. Le petit temps dans la semaine auquel on a plaisir à participer.
C'est ça, d'ailleurs, un temps qui a été avec le soutien, doublé avec le soutien de Michel. Je pense que Michel aussi a compris que c'était important qu'on puisse se voir un peu plus souvent. Parce que c'est vrai qu'à la base, on se voyait une fois par mois.
Ouais.
Donc là, on a doublé les interventions. Donc je remercie Michel parce que bon, bah voilà, quelque part,
C'est dans l'intérêt du projet.
C'est dans l'intérêt du projet, mais quelque part, il y a toujours un travail supplémentaire pour les membres, pour essayer de trouver des financements, des choses comme ça. Donc on double les actions, enfin les séances, mais derrière, il y a un travail. Je pense que tu le sais aussi. Et puis pour rebondir aussi sur ce que dit Michel, c'est que on se voit, c'est vrai, deux fois, mais il y a aussi des temps, ce qu'on appelle des temps de masterclass, où on essaye de se voir au Shabada.
Ouais.
Donc il y a un partenariat qui est fait avec le Shabada depuis 2-3 ans. Et du coup, moi, je remercie aussi Fabrice Nau, parce que c'est aussi grâce à son intermédiaire que cette dynamique. Peut se poursuivre dans ces lieux-là, au Shabada. Un autre lieu que Michel a sollicité, c'est le centre Jean Villard, le centre socio-culturel, où justement, ça permet, plus on avance dans le projet, plus le projet grandit, et plus les conditions de travail sont plus favorables pour les personnes.
Et la mairie également, d'après ce que tu disais.
Donc oui, la mairie a été sollicitée justement par Michel, parce que idéalement, on souhaiterait que ce spectacle, donc il y a du travail, hein, c'est pas encore fini, mais que cette valorisation puisse se faire au Grand Théâtre d'Angers. Ce serait une première, parce que ce serait la première édition, et ce serait c'est une demande qui a été en tout cas. Pourquoi tu dis non, Josiane?
Non, parce que la première édition aussi à l'instigation de l'association France Alzheimer, on a fait donner un spectacle au Grand Théâtre, sauf que on représentait des petites scénettes et il n'y avait pas de personnes malades. On imitait les comportements des personnes malades, mais il n'y avait pas de personnes malades même. Mais...
Donc c'est bien ce que je dis, c'est la première édition. D'accord. C'est la première édition. Alors moi, voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse sur ce projet, d'où aussi mon investissement, c'est que l'idée sur ce temps du Grand Théâtre, c'est qu'effectivement il y ait les aidants, il y ait les aidés, mais pas que. C'est que derrière, moi, je fais un gros travail pour que d'autres artistes, des artistes, viennent et puissent justement intégrer ce spectacle musical. L'idée, c'est vraiment de donner aussi une lumière, parce que enfin une belle lumière, même si les aidants, etc., en donnent tous les jours à leurs compagnons ou aux membres de leur famille. Mais l'idée, c'est que il y a à la fois cet aspect un peu intergénérationnel et que au niveau culturel et artistique, il y a aussi, si tu veux, des artistes qui se mobilisent autour de cette dynamique. Et c'est ça qui est extraordinaire, en tout cas.
Vous rendez les choses possibles et j'espère que, enfin voilà, tout ce que vous prouvez, c'est, ça amènera forcément la société à changer de regard, j'espère. Et alors là, c'est pas un échec, on tombe pas par terre, mais on va apprendre quand même des choses qu'on ne savait pas avant. Et c'est un peu nouveau de regarder la personne malade comme quelqu'un qui sait faire et qui s'exprime librement. Moi, j'ai dit bravo pour l'initiative quand même.
C'est ce que dit Tariq là au Shabadaï. Il fait appel à son réseau, lui, hein, d'artistes. Hein. Et lorsqu'on est au Shabadaï, il y a toujours des personnes qui sont en complément de l'équipe et qui viennent produire soit une chanson, soit une danse, quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et nous, c'est très intéressant parce que on augmente notre réseau au niveau de ces personnes-là. Il a fait appel à un chanteur une fois, on s'est rendu compte que lui aussi était touché par sa maman de la maladie d'Alzheimer. Il avait fait une chanson sur Alzheimer, mais je peux vous dire que ça nous a remué.
On peut peut-être le nommer, c'est Mokhtar.
C'est Mokhtar. Et Mokhtar, il fait partie du réseau maintenant, et il nous suit, hein, il nous suit.
Ça vous laisse bouche bée les uns et les autres, là.
Non mais... Quand vous dites que on est tous à la limite concernés dans notre entourage, oui, oui. Quand j'ai même pas besoin de réfléchir, je le sais.
Et alors justement, quand on est dans cette situation, parfois on est un peu sidéré au départ et c'est bien naturel. Faut pas hésiter à décrocher le téléphone, à aller rencontrer les personnes qui ont ce chemin de vie, l'expérience, pour que la charge soit un petit peu moins lourde. Hein. Ça paraît banal de le dire, mais il faut l'entendre.
Et le plus tôt possible. Il faut pas attendre, quoi.
Exactement. Mmh. Plus on réagit tôt et mieux plus il est facile de s'adapter et d'ajuster son mode de fonctionnement. On va écouter une nouvelle chanson, si vous voulez bien. Hein, c'est un peu le fil conducteur de l'émission. Pour trouver notre couple mystère, je vous propose d'écouter alors une jeune chanteuse que forcément tous les seniors ne connaîtront pas. Il s'agit de Oshi avec « Fais-moi un signe ».
Sur un malentendu, j'ai fait la sourde oreille. Peur du silence imprévu, de dépendre d'un appareil. Y'a comme un vide absolu qui n'a de pareil que le vide absolu. Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre. Prise au dépourvu, chaque concert est un combat avec moi-même. Chaque concert est un combat avec moi-même, comme une arène. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, toi le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Je vous jure, je suis tout oui. Non, même je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois je les capture. Jamais je n'oublie, par peur qu'ils deviennent des murmures. Des murmures. Face à vous, je tremble, accroché au micro. Je sens mon corps se fendre et je retiens mes mots. Mes vertiges m'étranglent, peur de tomber de haut. Faites que je finisse ce morceau. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, toi le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. dernière chanson, fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Signe. Si j'ai les images, mes pulsions, fais-moi signe. Toi, le sous-titre de ma prison, fais-moi signe. Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe. Deviens ma dernière audition, fais-moi signe. Si j'ai les images, mes pulsions, fais-moi signe. Toi, le sous-titre de ma prison, fais-moi signe. Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe. Deviens ma dernière chanson.
Donc c'était la jeune chanteuse Oshi avec la chanson Fais-moi signe. Et alors l'indice dans cette chanson, c'est le signe.
Le signe astrologique.
Ah bah voilà. Bah alors, voilà, par contre, dans le micro, ça marche beaucoup mieux, Jacqueline. C'est le signe quoi ?
C'est le signe astrologique.
D'accord. Et alors vous avez déjà idée de qui peut être le couple mystère alors ?
Oui, 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 on a trouvé, on a trouvé.
Si, si, si. Bon, allez, Marc, dis-nous qui est le couple mystère, s'il te plaît.
Ben, ce serait Elisabeth Tessier, la personne qu'il consultait régulièrement pour son avenir, pour la grande prêtresse de l'horoscope, oui.
Bon, c'est un peu surprenant, hein, effectivement, de concilier l'exercice du pouvoir à la fonction présidentielle et l'astrologie. Enfin,
mais c'est pas d'aujourd'hui, parce que là, la pitié de Delphes, les consultés de drague, et le système de la pitié, c'était qu'elle formulait. Enfin bon, c'était les prêtres qui étaient derrière. Hein. Elle était que l'instrument de ces prêtres. Ils formulaient d'une telle manière. Tout était interprétable.
Ah oui,
donc ce qui fait qu'à chaque fois, pratiquement, ça réussissait parce que l'interprétation était celle qui était la plus intéressante pour la situation.
D'accord. Même donc. Du temps de Cléopâtre, parce qu'on sait qu'elle avait du nez. Hein.
Bon, avant de passer à la chronique de Jean-Jacques, on va rappeler quelque chose, Tariq et Michel. On se disait là pendant le morceau qu'il y avait peut-être effectivement d'autres dynamiques à donner au thé Alzheimer et vous souhaitiez éventuellement inviter d'autres participants. Qui est-ce qui serait le bienvenu pour pouvoir compléter l'équipe ?
Alors. La porte, elle reste ouverte. C'est ça le message qu'on.
On arrive en hiver, hein, va falloir fermer les portes et les fenêtres.
Oui, mais on peut pas fermer les portes. Mais dans ce type de projet qu'on met en place, bien sûr que des artistes, des musiciens, des personnes qui veulent rejoindre l'aventure, bien sûr, la porte elle est ouverte. Et ça sert aussi à ça, ce type de projet. Et puis de l'autre côté, on échangeait un petit peu en off avec Michel, c'était de dire que il peut exister plus tard, peut-être avec de la réflexion, avec énormément de recul, comment constituer peut-être un groupe supplémentaire, etc. Mais tout ça, c'est un travail qui doit se faire un petit peu. Je vais pas dire en off, mais il y a toute une réflexion. Voilà. Mais pour ce projet-là, au contraire, moi j'appelle. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui me connaissent moi sur Angers. Donc bien sûr, si demain il y a des musiciens, des chanteurs, des chanteuses ou autres qui sont motivés pour rejoindre et donner aussi un coup de boost au projet. Ils sont les bienvenus.
Bon, on imagine une battle de thé Alzheimer alors prochainement les théâtres d'impro.
Ah non, je pense pas. On va pas rentrer dans le battle quand même. Il y a suffisamment de battles dans les séances entre eux. Mais voilà, l'art, la culture, c'est quelque chose de tellement vaste et puis à la fois c'est tellement précis quand on est dans l'action que bien sûr, moi en tout cas dans au niveau culturel, j'ai toujours été ouvert. Que ça soit débutant, que ça soit les intermédiaires ou même les experts, moi j'ai toujours été ouvert à tout type d'artistes. parce que même avec des artistes en situation de handicap, et j'en ai connu, ils arrivent à avec du travail, on arrive vraiment à toucher une émotion. D'ailleurs, on le voit même sur France Alzheimer, les aider qui ont beaucoup de difficultés. Il y a une chose qui, et ça c'est incroyable. Alors ils ont des pertes cognitives, de mémoire, etc. Mais l'émotion,
c'est ce qui reste intact.
C'est ce qui reste.
Ouais. C'est-à-dire que c'est utile de le rappeler.
Ouais, non, mais c'est vrai, hein. L'émotion, c'est quelque chose qui reste intact. Je peux demander à une personne de rejouer la tristesse ou autre. Elle reviendra exactement, elle l'aura conservée.
Et c'est important de le rappeler aux aidants parce que, effectivement, l'émotion, elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et la personne malade peut être heureuse ou en colère. Et cette communication, elle n'est pas toujours évidente à communiquer par les mots, mais elle le vit dans sa chair. Donc, faut savoir l'interpréter.
Voilà. Et donc, en tout cas, pour ces personnes qui seraient intéressées, je parlais des artistes sur le réseau social Facebook. Voilà, je suis très facilement, on me retrouve assez facilement. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, la porte, elle est ouverte.
Ok, merci, Tariq. Jean-Jacques, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui?
Je prends mon micro, jaune, aujourd'hui. Problème d'accès aux soins dans le Maine-et-Loire. L'UFC Que Choisir de Maine-et-Loire passe à l'action. Je parle de là, de la fracture sanitaire. L'UFC Que Choisir de Maine-et-Loire rend public les chiffres affolants de la désertification médicale qui frappe notre département, révélés par l'actualisation de la carte de la fracture sanitaire. Face à l'inaction coupable du gouvernement, notre fédération l'attaque devant le Conseil d'État. L'UFC Que Choisir de Maine-et-Loire soutient cette démarche et invite les Angevins, et oui, je sais, les habitants de notre beau département de Maine-et-Loire n'ont pas officiellement de nom, je vous rappelle. Donc, je le répète, nous vous invitons à également nous soutenir en signant et en partageant massivement la pétition Accès Soins, J'accuse l'État, dans le cadre de la campagne Ma Santé N'Attend Plus. Pour rappel, un désert médical est caractérisé par une accessibilité médicale au moins 60% inférieure à la moyenne nationale. Un accès difficile est caractérisé par une accessibilité médicale au moins 30% inférieure à la moyenne nationale. Et même si notre département n'est pas dans le fond du classement, on sait l'urgence dans ce domaine, dans nos autres départements des Pays de la Loire. Précisons que depuis 2021, en Maine-et-Loire, l'accès territorial à un généraliste, à un pédiatre, à un gynécologue, à un ophtalmologue s'est dégradé considérablement pour notre population. Devant l'urgence à mettre fin aux inégalités territoriales sur l'accès aux soins et refusant d'assister plus longtemps à l'immobilisme du gouvernement qui refuse de prendre les mesures courageuses de nature à résorber la fracture sanitaire, régulation de l'installation des médecins et fin de dépassement d'honoraires incontrôlés, la fédération UFC Que Choisir vient de déposer un recours devant le Conseil d'État pour que la plus haute autorité administrative du pays constate et sanctionne l'inaction du gouvernement, mais également qu'elle l'enjoigne à prendre sans délai les mesures courageuses permettant de résorber la fracture sanitaire.
Merci Jean-Jacques. Le paradoxe, c'est que notre région et le département en particulier est une zone attractive et qu'on gagne en population, mais on ne gagne pas de médecins, c'est ça?
Mais c'est rien par rapport à la Mayenne et à la Sarthe, qui sont très très très... Et d'ailleurs qui ont réagi depuis des années pour ça.
Bon. En d'autres termes, on va soigner nos médecins, on va les garder.
Oui, parce qu'on a des bons médecins qui continuent et qui font beaucoup d'efforts, de plus en plus d'efforts, puisque justement, ils sont de moins en moins.
Ok. Il y a des tas de facteurs d'explication, mais c'est vrai que ça remonte à loin, puisqu'il y a des décisions qui ont été prises, et c'est reconnu maintenant par les hommes politiques, hein, avec le numerus clausus, mais aussi, ce numerus clausus... Il a été effectivement décidé, moi, pour ça a été dit, hein, pour deux raisons. D'une part, le fait que on craignait que plus il y a de médecins, plus il y aura d'actes, donc plus ça que ça coûtera, ça mettra en déficit ou en difficulté le système de sécurité sociale. Ça, c'était un premier critère. Et puis il y a aussi des critères qui viennent des médecins eux-mêmes, enfin du monde médical, en disant bon, il y avait un gâteau. Et il faut se le partager. C'est pas par hasard si, notamment au niveau des, notamment il y a les généralistes, mais aussi les spécialistes. Il y avait peur de ne pas, voilà. Alors, sauf que la population, faut savoir que la population française elle vieillit et que les soins, les demandes de soins, elles sont les plus importantes, c'est en fin de vie. Il faut savoir que les dépenses, le pourcentage de dépenses dans les 6 derniers mois de sa vie, c'est ce qui est le plus important en termes de chiffres. Donc tous ces phénomènes-là conjugués font que on réouvre le numerus clausus, mais il faut 10 ou 12 ans ou 15 ans pour faire un médecin.
Tout à fait.
Donc voilà, donc là on est coincé. On est coincé.
Je voulais juste pas te couper, mais de rajouter un troisième critère qui était la formation qui coûtait cher. Donc le but c'était surtout économique, c'était un but économique.
Oui, c'était une gestion économique.
Et on pensait qu'on allait pallier avec un apport important des médecins de la sourde, enfin des autres pays environnants qui avaient afflué, mais on remarque que oui, non, c'est pas du tout suffisant.
Et au niveau de la formation, il y a un autre aspect, c'est que le fait de redémarrer, de réouvrir le numerus clausus, les structures d'accueil et de formation qui ont ralenti, faut les redémarrer aussi.
Oui, non, mais
c'est
comme une usine qui
reste fermée pendant
longtemps.
Des moyens, non seulement financiers, mais humains. Donc c'est compliqué.
Il y a un autre critère qui est important aussi, c'est que la profession médicale se féminise aujourd'hui.
Il y a aussi ça, oui.
Et que donc il y a beaucoup, on le voit bien hein, dans les facs de médecine aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Moi, à mon époque, il y avait plus d'hommes que de femmes, mais aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Et même dans les métiers paramédicaux, où avant c'était des hommes, et aujourd'hui, ce
sont des femmes. Dans la santé en général, même dans les postes de direction.
Pour confirmer ce que tu dis tout de suite, oui, j'avais un médecin homme, et depuis quelques années, c'est une femme. Et c'est très bien, d'ailleurs, je suis très content. Hein.
Il a fait un changement de sexe.
Non, mais il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que, bon, les femmes, si vous voulez, ont une autre conception de leur vie au travail. Ces personnes-là vont pas commencer à 7h le matin pour finir à 21h le soir, hein. Elles ont des horaires beaucoup plus cadrés parce que bon, elles prennent aussi des temps partiels. Hein, c'est pas des gens qui travaillent.
Les médecins comme les autres recherchent un équilibre vie professionnelle.
Pouvoir préserver sa vie familiale et puis sa vie professionnelle.
Et je pense aussi que par ricochet, si on va dire nous les hommes, on aménage un peu plus de temps à la maison et on partage peut-être plus équitablement les choses, elles sont peut-être pas autant à la recherche de cet équilibre domicile, s'occuper du foyer parce que.
Alors il y a aussi l'aspect financier. Un cabinet tout seul, ça coûte très cher, donc ils essaient de se mettre à plusieurs pour avoir une secrétaire commune et des choses comme ça. L'aspect financier n'est pas négligeable. Hein.
Et dernier point, il y a des zones plus attractives. Et tout le monde se regroupe, s'agglutine dans ces zones-là. Et aujourd'hui, il y a plein de zones qui sont désertées.
Oui, donc le mal est profond et les moyens de le soigner, c'est pas facile. Hein.
Mais, Josiane, t'avais le micro en main, tu vas le reprendre. Est-ce que tu as des petites colles à faire à notre ami Tariq aujourd'hui ?
Mais oui, tout à fait. J'ai cherché. Je vous propose de trouver des petites phrases, n'est-ce pas, à travers les légumes. Alors, attendre quelqu'un très...
Le poireau.
Parfait.
Non, par contre, le micro.
Être très déçu, avoir du chagrin.
Je l'ai pas, celle-là.
Un légume, oui.
Dans les choux, non.
Non.
Dans les choux, c'est tomber dans les pommes.
Ouais.
Enfin,
non.
Être dans les
pommes. En avoir gros
sur la patate.
Sans patate.
Ouais, Tariq, t'as le droit de participer. Hein.
Exploiter quelqu'un.
Presser le citron.
Exact. Alors, dire des mensonges. J'espère que personne parmi vous n'a dit des mensonges.
Dire des mensonges.
Est-ce que ça a à voir avec les faillots, non?
Non.
Non, mais la carabistouille, c'est pas un...
Ah bah non, ça...
Ben, raconter des salades.
Ça, oh, c'était tellement simple.
Bah, une petite dernière, Josiane.
Je vais choisir. Être privé d'argent ou pas en avoir beaucoup.
Le radis?
Oui, n'avoir pas un radis.
Voilà, je pensais au radis, mais j'avais pas le début de la phrase.
Bon, merci Josiane. On va écouter une chanson de 1995. Pourquoi ? Parce que 1995, c'est l'année de décès de François Mitterrand. Et cette année-là, Maxime Forestier chantait « Passer ma route ».
Les cartons, les plans de la planète, faites-les sans moi, oublié par les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route. Pas vu ça passer. Passer entre les gouttes. Eva est belle. Elle voulait tout savoir sur ma vie. J'ai tourné cette fois ma clé dans ses menottes. Cette fois ma langue dans sa bouche. Et j'ai dit, je fais que passer.
C'était donc Maxime Le Forestier avec Passer ma route en 1995. On a une émission qui est un petit peu perturbée, hein. On n'est pas dans les conditions habituelles d'enregistrement. Jacqueline, je vais lui mettre un petit peu la pression. Tu avais plein de choses à nous raconter cette semaine sur des expositions.
Alors, exposition aux anciennes écuries de Trélazé. Ce sera du 1er au 17 décembre 2023. C'est un groupement artistique trélazéen. C'est les anciennes écuries se situent rue Ferdinand Vess à Trélazé. Et c'est sur la peinture, sculpture, art plastique, sous toutes ses formes, en général avec des artistes locaux.
Donc des contemporains.
Plutôt des contemporains. Mais en général, le bâtiment déjà vaut le coup pour la visite. Et généralement, les expositions, même d'art contemporain, sont vraiment superbement mises en scène.
Et ils ont entre autres un très bon éclairage pour les œuvres. J'ai souvenir d'avoir vu une exposition d'art premier. Et là, effectivement, c'est toujours surprenant d'aller visiter des choses comme ça. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Avec les personnes malades, l'émotion est intacte. Et je pense que l'art, c'est le propre de l'art, c'est de ne pas laisser indifférent. On a tous une sensibilité différente et moi j'adore les œuvres que l'on aime ou que l'on déteste. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais
Général, ça ne laisse pas indifférent.
Ouais, mais c'est pas toujours reconnu par tout le monde. le monochrome des uns ou le cubisme des autres ou je ne sais quoi, ça permet toujours
de... noir de...
Ouais, mais c'est vrai que ça me permet vraiment d'élaborer, d'échanger et voilà autour d'un thé, pourquoi pas, hein. Et on va abuser un tout petit peu de Ricardo qui a pas pris beaucoup le micro aujourd'hui, mais qui revient de vacances. Donc moi j'aimerais quand même qu'il nous dise le bilan carbone de son.
Alors là il est dans les choux, hein.
Non mais je crois que t'as été au soleil.
Salope. Parce que si j'ai vraiment, alors si j'ai vraiment un cas de conscience, c'est sur le bilan carbone de ce voyage, parce que l'Indonésie c'est loin, c'est très loin.
Surtout à la rame.
Ah bah oui. On va dire alors c'est au total bon 9 plus 8 de en deux Avignon et on va dire à nos top, je l'ai fait à pied, in main. Je l'ai Non mais allez pour
alors c'est pour ça que t'as pris autant de temps.
j'aime bien voyager, donc j'essaie de me rattraper en fait sur d'autres choses pour ma conscience écolo, on va dire, et j'en fais qu'un par année. Donc. Que ça va. Non, mais c'est vrai. Mais oui, j'étais au soleil et c'est magnifique. Les îles, différentes îles des Indonésiennes, ce que je cherchais justement après cette longue, une longue année sans vacances, c'était surtout le dépaysement, ce que j'ai retrouvé totalement, parce que on va dire les plages paradisiaques, on peut en trouver à d'autres endroits et ailleurs. Même en France, on a de très très dans le sud, on a de très très belles plages. Mais c'est là-bas qui est ce que j'ai surtout. Ouais, même en Bretagne. Moi, j'adore les places sauvages bretonnes. Comment je trouve, c'est la Bretagne, c'est très beau.
Les lagons en Bretagne.
Et comme on dit en Écosse, en Bretagne, quand il fait pas beau, il suffit d'attendre 5 minutes.
Non, mais en Écosse, il fait beau.
Par contre, pas pour le micro, c'est bien.
C'est ça. C'est quand oui, c'est ça. La phrase exacte, c'est en Écosse, c'est quand si tu n'aimes pas le temps qu'il fait, attends 5 minutes. Mais c'est très beau, surtout les îles Gili, il y en a trois, Gili, qui sont des plages où tout ce qui est, on parlait justement écolo, mais tout ce qui est, moi je disais ça tout à l'heure, tout ce qui est moteur est interdit, donc on ne se déplace que à pied, en calèche. Et à vélo, et donc bon, je vais pas conseiller à tout le monde d'y aller parce qu'on va pas reparler du bilan carbone, mais c'est à faire.
Et tu nous as ramené une leçon de vie comme nous fait Marc à chaque émission ou pas? Qu'est-ce que t'as retenu des personnes que t'as rencontrées?
Ah bah c'est à chaque fois ce qu'on retrouve quand on va dans on va dire dans les pays en voie de développement en général. Je résume toute la chose comme ça. C'est le contact humain. Les gens n'ont rien mais donnent tout, sont hyper avenant, hyper chaleureux. Ils prennent le temps pour tout. C'est ce que là, on relativise. Bon, c'est pour dire globalement, les gens ont peu et donnent tout. La rencontre humaine, très chaleureux et ils prennent le temps. Ils prennent le temps et on sent qu'ici, on se mène du stress parfois pour pas grand-chose.
Les amis, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission d'Il est l'heure, Monseigneur. Donc, je vous souhaite à tous une belle et heureuse semaine. Merci Jacqueline.
Merci Raphaël.
Merci Ricardo.
Merci Raphaël.
Merci Marc.
Merci Raphaël.
Et merci Josiane.
Bonne semaine aux auditeurs.
Merci Josiane.
À la prochaine.
Tariq, grand merci.
Merci pour l'invitation Raphaël.
Et puis Michel, s'il veut bien dire un petit merci, bonjour, au revoir.
Oui, merci à l'équipe.
À bientôt.
On était tous amoureux, on se sentait chez les airs, chez les airs, à bicyclette.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.